0-0, vous êtes connecté sur Move.
Move, 13h-13h30.
Move 13 Actu.
Alex Nassar.
Info, culture, société, sport, tous les jours de 13 à 13h30 sur Move. Move 13 Actu, toute l'actu de ce vendredi 10 novembre. Comment ça va la team?
Ça va.
Vous êtes en forme, c'est bien. Move 13 Actu à la radio, bien sûr, ou sur votre smartphone via l'appli Move, mais aussi en vidéo sur Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Lise, Karim Benzema, dont on va beaucoup parler aujourd'hui.
Oui, 2 titres de champion d'Espagne, 4 titres de champion de France, 3 Ligues des Champions, 81 sélections, 27 buts avec les Bleus, et pourtant il ne joue plus en équipe de France et depuis 2 ans. Retour sur le parcours de Karim Benzema, le mal-aimé du foot français.
Ce sera dans le focus du jour. Guérin, comme tous les vendredis, international et la Zoom Bactu. Il s'est passé des choses cette semaine, Guérin.
Ah bah énormément. J'ai appris que Taylor Swift avait disparu, mais pas comme Willy Denzel, elle a juste disparu d'Internet.
Ah ouais.
J'ai lu ça dans Le Monde, donc ça veut dire que c'est Le Monde qui écoute Taylor Swift, c'est eux. J'avais pas vu moi qui était parti en même temps, j'ai pas vu qui était rentré.
Ah oui, d'accord. Donc,
on parlera pas d'elle, mais j'ai d'autres.
Très bien, tu l'adores, ça se sent. Toute l'actu internationale de la semaine vue par Guérin. Ce sera dans la Zoom Bactu du sport aussi avec Greg. Aujourd'hui, ça se passe en Angleterre, en première ligue. Marouane Fellaini n'est pas content du tout.
Non, ouais, c'est ça, le joueur belge de Manchester United qui réclame plus de 2 millions d'euros à New Balance, son ancien équipementier.
D'accord.
Selon lui, c'est à cause des chaussures fournies par la marque qu'il est tout le temps blessé.
Il est gonflé quand même. Ce sera dans le trash talk du jour. Et puis avant 13h30, Sonia nous emmènera à Paris dans le 18e arrondissement, dans le bar commun, un bar associatif géré par des bénévoles. Alors comment ça marche un bar associatif? À quoi ça sert? À part boire des coups, avec modération bien sûr. Les réponses dans le reportage de Move 13 Actu.
Move 13 Actu.
Jusqu'à 13h30, Move.
Deux invités avec nous aujourd'hui. Ouais, la musique de Rocky, les gars, ça fout la pression. Damien Piscarel et Florent Baudin. Salut les gars.
Bonjour.
Bienvenue dans Move 13 Actu. Merci d'être avec nous. Vous avez tous les deux 34 ans. Vous êtes journaliste sportif. Jusque-là, c'est bon.
Ouais.
Ouais. Et dimanche soir sur Canal+, à 21h, on pourra voir un documentaire très, très attendu. Un documentaire que vous avez réalisé. Ça s'appelle Le cas Benzema. Sans surprise, un film consacré à Star Wars. Voilà. Non, c'est évidemment un film sur Benzema. Alors, on a vu une version pas tout à fait finalisé du documentaire. On a vu 49 minutes, il va durer beaucoup plus longtemps au final ce docu.
Il va durer 2 heures.
2 heures sur la vie de Karim Benzema. Alors pour la première fois, Benzema vous a ouvert les portes de sa maison. Vous l'avez suivi dans le quartier où il a grandi, à Bron, c'est bien ça?
C'est ça, c'est ça.
C'est dans la banlieue de Lyon. Vous avez commencé quand à travailler sur ce projet?
Environ un an, c'est ça
hein? Ouais, entre l'écriture du projet, trouver le diffuseur, commencer à tourner.
Ouais. Ça fait un an.
Calé, ça fait un an.
Greg a plein de questions pour vous. Greg, c'est le sportif de la bande.
Le sportif pour l'émission, quoi.
Pour l'émission,
c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, parce que sinon. Non, ouais, la question qu'on se posait, c'était qui a souhaité faire le documentaire? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est plutôt vous? Comment ça s'est passé, la prise de contact, en fait?
Alors, en fait, ça s'est passé très simplement. C'est que Black Dynamic Productions, donc la société qui produit le documentaire Le cas Benzema, a produit un autre documentaire en septembre 2016, diffusé sur France 2, qui s'appelle 1996-2016, Les Bleus, une autre histoire de France, qui met en parallèle l'histoire de l'équipe
super,
de France.
Super docu sur Netflix d'ailleurs en ce moment, si vous ne l'avez pas encore vu.
Voilà, et qui en fait met en parallèle l'histoire de l'équipe de France et l'évolution de la société française.
Ouais.
Pour ce documentaire, Karim Benzema avait été contacté par les réalisateurs, par le producteur. Il n'avait pas souhaité s'exprimer. Finalement, à la fin, ça aurait pu se faire, mais c'était trop tard, le documentaire était terminé.
D'accord.
Lui et son entourage ont vu le documentaire.
Ok.
On s'est reparlé derrière. Ils ont dit, écoutez, on a trouvé le traitement juste. Peut-être que pour nous, il est temps de parler et d'ouvrir les portes.
D'accord, donc c'est
après,
en voyant...
Faites le boulot que vous avez à faire.
D'accord.
Que vous estimez devoir faire.
Donc c'est en voyant ce premier film auquel il n'a pas participé qu'il a eu envie finalement de faire un truc avec vous.
Ouais.
Ouais, c'est marrant, c'est assez surprenant comme situation. Pour bien comprendre les enjeux de ce documentaire, Le cas Benzema, Lise, t'as dressé le portrait de Karim Benzema.
Oui, et d'après vous, pourquoi Karim Benzema n'est plus appelé en équipe de France? On vous a posé la question sur Snapchat. Voici l'analyse assez intense de Diego.
Le truc est que Karim a répondu à une interview d'un journal espagnol qui s'appelle Marca en expliquant que Didier avait cédé à une partie raciste du public.
Ouais.
Chose que, bah, ma foi, Didier a dû l'avoir mauvaise et je le comprends. Quand tu défends un mec qui derrière te fracasse un petit peu à demi-mot, ça fait toujours un peu mal. Avec ça, plus l'affaire Valbuena, ça lui a clairement desservi. Mais bon, c'est dommage parce que sportivement, je pense qu'il nous apportera quelque chose malgré tout. Donc bah Didier, si tu nous écoutes, fais un effort.
Guérin. On a un auditeur d'RMC qui est perdu.
Non, attends, Diego, il les connaît tous. Hein,
ah ouais, il est super
Didier,
bon.
Vois, il est hyper calé. Mais en tout cas, voilà, tout le monde a un avis sur Benzema. C'est assez bien résumé par Diego. Mais c'est avant tout un joueur de foot, Karim.
Oui, un joueur né en 1987, comme Samir Nasri, Hatem Ben Arfa ou Jérémy Ménez. Que des mal-aimés. Il a grandi à Bron, en banlieue lyonnaise, avec ses 5 sœurs et ses 3 frères. Il a été encouragé par son père, dont il était le chouchou. Karim commence à taper dans le ballon au SC Bron Terraillon.
Alors, la génération 87, hein, c'est les joueurs qu'on a évoqués, Nasri, Ben Arfa, Ménez et pas mal d'autres. Ils sont dans le documentaire aussi.
Ils sont dans le documentaire.
En tout cas, Hatem Ben Arfa et Samir Nasri sont dans le documentaire.
Ils sont dans le documentaire.
C'est la première fois d'ailleurs que les trois fer de lance de cette génération se retrouvent tous les trois dans le même documentaire.
D'accord.
Et évoque d'ailleurs ce passage, les débuts en équipe de France chez les jeunes.
Bien sûr, ils ont commencé tous ensemble, c'est la même génération. Ensuite, Benzema est recruté par l'OL.
Ouais, l'Olympique Lyonnais, son club formateur, il y passera 5 ans. Karim Benzema se fait remarquer dans l'équipe des moins de 18 ans, inscrivant 12 buts en 14 rencontres en 2004-2005. Il est intégré au pro, il y dispute 6 matchs de Ligue 1. À 19 ans, il est titularisé.
Et c'est alors qu'arrive la première polémique.
Ouais, en 2006, on lui demande de choisir entre l'équipe de France et celle d'Algérie, pays d'origine de ses parents. À l'époque, l'entraîneur de la sélection algérienne se déplace même en France pour tenter de le convaincre. On le voit d'ailleurs dans votre docu.
Ouais.
Karim Benzema a la double nationalité, il finira par choisir la France pour le côté sportif, des propos mal intégrés à l'époque.
Quand je dis ça, moi, côté sportif, c'est que à l'époque, il n'y avait pas photo, en fait. On parle football, il n'y avait pas photo entre l'Algérie et la France. C'est pas une question ouais, je me sens plus algérien, la France, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Ils ont ressorti ça d'ailleurs il y a pas longtemps, mais en fait, ils sont ridicules en fait.
Alors ça, c'est une séquence de votre documentaire. Ouais. Est-ce que selon vous, le désamour de certains Français pour Karim Benzema date de 2006 et de ce choix qu'il a fait entre la France et l'Algérie?
Bah, ce qu'on essaie de montrer avec Florent dans le documentaire, c'est une étude de caractère. Ce documentaire, c'est pas une enquête. Donc à partir de là, c'est un portrait de quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait.
C'est vrai, on connaît très peu Benzema.
Il parle peu, il y a jamais eu de grand portrait de lui à la télévision. Donc il y a plein d'événements, il y a toute une histoire en fait, il y a tout un contexte à raconter. En fait, à travers son parcours, ça pose aussi les questions qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un joueur de football. C'est aussi l'histoire d'une génération, la génération 87. C'est aussi, quelque part, l'histoire du foot des années 2010. Il y a tout ça qui se mélange et il incarne un petit peu toutes les problématiques autour du football. D'accord. C'est pour ça que c'était un cas très intéressant à étudier.
Oui, Guérin. D'ailleurs, heureusement qu'il s'appelle Karim. Parce que sinon, le titre du documentaire.
Oui, c'est ça.
Rachid Benzema, le R Benzema, on comprend pas.
Non, ça marche pas. Lise, en 2007, Benzema est appelé pour la première fois en équipe de France.
Ouais, à l'époque, c'est Raymond Domenech, le sélectionneur des Bleus. Le 28 mars 2007, face à l'Autriche, Karim Benzema inscrit le but de la victoire. Régulièrement appelé à jouer en équipe nationale, il est dans la liste des 23 pour participer à l'Euro 2008.
Et en 2009, il est transféré au Real Madrid.
Ouais, 35 millions d'euros le transfert. Il signe alors pour 6 ans au Real, contrat qu'il a prolongé en septembre dernier jusqu'en 2021. Prolongation accompagnée d'une augmentation de la valeur de sa clause libératoire, qui s'élève désormais à 1 milliard d'euros contre 250 millions avant, la même clause que Cristiano Ronaldo.
Ce qui ne fait pas du tout peur à Nasser et Al-Falaï.
Non.
Absolument pas. Alors, devenu une star en Espagne, il est de plus en plus dénigré en France.
Oui, écarté de la sélection nationale depuis 2 ans par Didier Deschamps, on entend le plus souvent son nom cité dans des affaires. Celle de Zaya en 2010, il est mis en examen pour sollicitation de prostituées mineures avant d'être relaxé en 2014.
Et puis évidemment, en 2015, il y a l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena.
Bah oui, forcément, il est mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Enfin, l'année dernière, il a aussi été vivement critiqué par la presse espagnole pour son apparition dans le clip de Booba Wallabop, où on voit des hommes cagoulés, de l'argent, des flingues. Benzema est une nouvelle fois ramené à son image de jeune des quartiers et à ses mauvaises fréquentations, une fois de plus.
Merci beaucoup, Lise, pour ce focus. Alors, tous ces sujets, hein, la sextape, le racisme, la carrière de Benzema, vous en parlez évidemment dans le documentaire. C'est un portrait, tu l'as dit, Damien, de Karim Benzema. Aucun sujet n'est éludé, mais évidemment, le principal sujet du docu, celui par lequel vous commencez, c'est évidemment la non-sélection de Benzema depuis l'affaire de la sextape.
Oui.
C'est le premier sujet, c'est celui qui intéresse le plus les gens.
En fait, si on regarde l'actualité aujourd'hui, hier il y avait un dossier dans l'équipe, qui est quand même le journal de référence dans le sport en France, qui posait la question, Benzema doit-il revenir? Nous, quand on va interroger un Zinedine Zidane, un Cristiano Ronaldo, ou encore plus un Thierry Henry, on ne sait pas ce qu'il va nous répondre, Thierry Henry. Et dès le début du documentaire, en fait, on ne va pas tourner autour du pot. Il fallait tout de suite poser l'enjeu. C'est-à-dire que sportivement, il y a des grands noms qui nous disent il doit être en équipe de France. Sauf que c'est pas si simple.
Non.
Et qu'est-ce qu'on explique derrière? Bah, on explique son histoire.
Justement, ouais. Le début du docu, Greg.
Ouais, justement, concernant cette non-sélection aussi, le documentaire commence avec des interviews de Zidane et de Ronaldo. CR7, ça donne ça.
Il a toujours eu l'équipe de France dans sa tête. Donc, quand il est pas, forcément, il est pas content. Il y a eu des petits tracas. Aujourd'hui, ils existent plus, ces trucs-là. Ce que je veux dire, c'est que on a juste besoin de voir aujourd'hui le footballeur. C'est-à-dire ce que peut Karim apporter à cette équipe.
J'étais déçu que Karim ne fasse pas partie de l'équipe de France lors de l'Euro. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde. C'est mon souhait parce que c'est un joueur fantastique et j'aime voir les grands joueurs dans les grandes compétitions. J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde.
J'espère que Karim pourra aller à la Coupe du Monde deux fois, Florent. Il le dit deux fois, Cristiano Ronaldo. Le message est très clair. Hein.
Oui, le message est clair et on sait que de toute façon, les deux hommes s'apprécient. Ronaldo n'aurait sans doute pas la même carrière si Karim Benzema n'était pas là pour lui donner les ballons, pour faire les appels, pour finir certaines actions aussi. Donc il y a une vraie complicité sur le plan sportif entre les deux hommes, ça c'est clair et net.
Greg.
Ouais, il n'y a pas que Zizou et CR7 dans votre film, il y a aussi Ribéry, Thierry Henry, on l'a dit, Florentino Pérez, le président du Real, Carlo Ancelotti qui a été son entraîneur, ou encore Bouba, le grand pote de Benzema.
Le sport, c'est beaucoup d'argent. Et c'est juste des petits jeunes de quartier qui gagnent des millions, mais ça reste, aux yeux des dirigeants et des chefs d'État, ça reste des petits jeunes de quartier à qui on donne beaucoup d'argent.
Voilà, Bouba qui sous-entend clairement que si Benzema n'est pas aimé, c'est à cause de ses origines. Benzema qui a d'ailleurs déclaré que si Deschamps ne l'appelle plus en équipe de France, c'est parce qu'il a cédé à une frange raciste de la France. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Diego l'auditeur. C'était dans Marca. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, un racisme ambiant autour de Benzema?
Ça soulève la question, en tout cas, après...
Nous, dans le documentaire, on pose les faits, on pose la question. Après, c'est pas à nous de répondre. C'est-à-dire que nous, on est allé voir les personnes. En l'occurrence, Karim Benzema, évidemment, on l'interroge sur cette sortie, sur pourquoi il dit ça, quel est le contexte, on plante bien le décor. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, il y avait beaucoup de déclarations à ce moment-là, faut se souvenir. Il y avait Eric Cantona qui avait fait une sortie avant.
Exact.
Il y a Jamel Debbouze. La question qu'on pose à Benzema sur le journal Marca, parce qu'on a rencontré en plus le journaliste qui s'appelle Pablo Polo, qui avait fait l'interview le 1er juin. La question, c'est est-ce qu'il fait référence aux déclarations de Cantona.
Est-ce que comme Cantona, vous pensez que d'accord. Didier Deschamps est raciste?
Donc nous, après notre boulot, ça a été en fait de remettre les faits tels qu'ils s'étaient passés. Après, Karim Benzema...
D'ailleurs, dans le documentaire, on donne toute la réponse.
Oui.
De Benzema. Parce qu'on a... La réponse en entier. On a oublié qu'à la fin, par exemple, il dit en tout cas, je souhaite le meilleur à l'équipe de France.
Ouais, c'est vrai qu'on a complètement oublié
ça. Je suis à fond avec les Bleus.
Après, c'est...
On a sorti une
on se souvient que de la punchline.
Nous, on est très factuel dans ce documentaire parce que c'est... Les gens vont arriver... Tout le monde a une opinion sur Karim Benzema.
Ouais.
Bien ou mal. Tout le monde a une idée sur la personne. Nous, on pose les faits. Il n'y a pas de commentaires dans le documentaire. Les gens parlent. C'est un portrait. Après, à chacun de se faire son opinion selon les réponses de Karim Benzema et de son entourage.
Et pour revenir sur le racisme, on a des spécialistes, des historiens, des sociologues qui nous parlent de ça.
Voilà.
Parce que c'est eux les mieux armés pour parler de tout ça.
Et surtout, ils ne sont pas, ils sont pas dans un contexte passionné. Ils sont détachés
de
cette. Voilà, exactement.
Guérin.
Non, mais c'est ça qui est bien, qui est intéressant. Je veux pas du tout spoiler ou n'importe quoi. C'est qu'on voit à travers le documentaire qu'en fait, le joueur Benzema là, comme vous disiez tout à l'heure, en tant que joueur de foot, il stigmatise toutes les questions qui traversent la société française, parce que les dernières personnes en qui on fait confiance, on a l'impression que c'est les footballeurs pour nous représenter. On a viré les politiques, Donc il faut que l'équipe de France soit exemplaire. Ça marche pas, parce que c'est des footeux, c'est des gens normaux, et puis voilà.
Alors en revanche, il manque quelques personnes importantes dans la version du film qu'on a vu en tout cas. Il n'y a pas Didier Deschamps, ni Noël Le Graët qui est le président de la Fédération Française de Foot, et il n'y a pas non plus Mathieu Valbuena.
Mm-hmm. Vous les avez contactés,
mais oui, on aurait aimé les avoir évidemment. On aurait aimé les avoir dans le documentaire.
Alors, en revanche, il y a l'avocat de Valbuena qui parle.
Oui. Voilà. Pour nous, c'était fondamental, puisque on traite quand même évidemment de l'affaire de la sextape. C'était fondamental d'avoir un des avocats de Mathieu Valbuena, donc en l'occurrence maître Paul Albert Iwens, face à l'avocat de Karim Benzema.
Bien sûr.
Greg. Le sujet Benzema, il revient souvent pendant les conférences de presse de Didier Deschamps, notamment hier, parce que ce soir il y a un match.
Ouais.
France-Galles.
Oh non, il est lourd.
Hey, on m'a interdit Claude François, tu lui as permis France-Galles.
J'ai permis François, il a fait sans demander mon autorisation.
Pardon, voilà, France-Galles ce soir donc. Et Didier Deschamps s'est exprimé. Et on lui a demandé justement si ça le saoulait pas trop qu'on revienne à chaque fois sur Karim Benzema.
Ça ne m'agace pas, ça fait partie du paysage médiatique, si je peux dire ça. Et libre à vous de faire les sujets sur qui vous voulez, quand vous vouliez, mais c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui va me faire dévier de mon chemin et de l'idée directrice que j'ai par rapport à l'équipe de France.
Alors on sent bien qu'il est dans son sillon, hein.
Ouais, mais ça sent, enfin, ça le dérange pas. Évidemment, ça l'emmerde au possible qu'on lui parle de Benzema à chaque conf de presse.
Guérin. Tu sens qu'il veut dire ça m'agace pas, mais allez vous faire reculer le cul.
Oui, c'est un peu ça.
Alors est-ce que vous savez s'il a parlé avec Deschamps récemment justement et pour s'expliquer ou demander des explications, est-ce qu'il y a eu voilà entre les deux une discussion?
Bah vous verrez dimanche soir parce qu'on lui pose la question et il répond.
Benzema répond à la question de savoir s'il a parlé récemment avec Deschamps.
On lui pose la question très clairement et il répond très clairement. Après, c'est sa prise de position.
Bien sûr.
Mais en tout cas, il répond de manière très claire.
Joli teaser, les gars.
Bravo, Florent.
On oublie un peu quelque chose aussi dans la relation Deschamps-Benzema. Il y a un moment où Deschamps, il l'a défendu, oui. Karim Benzema.
Et ça, on le montre aussi. Ça, c'est très important.
Et ça, on revient là-dessus, on ressort les extraits. Parce qu'il y a eu un changement dans la relation entre les deux, évidemment, avec cette affaire de la sextape.
On a l'impression, en tout cas, aussi qu'il est en campagne, Benzema, en ce moment. Alors, d'habitude, il parle très peu. Et là, rien que cette semaine, il était en une des Un Rock. Ouais. Il y avait la une de l'équipe aussi, même si là, il s'exprimait pas. Il sera l'invité du Canal Football Club dimanche. Il y a ce documentaire. C'est quoi le projet, en fait, autour de ça? Est-ce qu'il y a une Benzema mania en ce moment sur laquelle tout le monde surfe? Est-ce que l'idée, c'est de mettre la pression à Deschamps pour la Coupe du Monde 2018? On a l'impression qu'il y a beaucoup de Benzema en ce moment.
Alors, nous, on met la pression à personne.
Non, mais déjà. Non, mais en tout cas,
ça fait un an qu'on pense et vit Benzema. Donc.
Non, mais ce documentaire, en fait, on sait quand on a commencé à tourner. On a commencé à tourner le 1er mars. On ne savait pas quand on allait finir. Pour vous donner un exemple, quand on sait qu'on peut avoir Thierry Henry, ça met 4 mois entre le moment où on sait qu'on peut l'avoir, et le moment où on tourne l'interview.
Ça se fait.
Il y a des merdes sur l'Eurostar en ce moment.
On s'est déplacé.
Prends le RER A et comme il y a eu des fuites là récemment, c'est relou.
Donc, à partir de là, il y a eu un moment, il était question que ce soit pour le mois de juin. Ensuite, pour le mois d'octobre, mais évidemment, si l'équipe de France de football avait disputé les parages actuellement, ça aurait pu être vu comme une provocation, donc le documentaire n'aurait pas été diffusé maintenant. Ensuite, il y avait une réalité sportive aussi pour Karim Benzema. On avait les demi-finales, la finale avec des champions, on a pu le suivre. Il y a tout ça qui a fait que nous, on est un peu détachés de ce temps médiatique. On est dans un portrait, on n'est pas dans une interview à un moment T sur actuellement est-ce qu'il faut qu'il y ait Karim Benzema ou pas en équipe de France. On est sur un temps beaucoup plus long.
Bien sûr, mais en tout cas c'est vrai que du coup le documentaire, on a l'impression qu'il est intégré, c'est pas de votre fait bien sûr, à un plan de communication orchestré par Benzema. À un moment évidemment on se rapproche de la Coupe du Monde, il y a pas mal de papiers, il y a pas mal de choses qui tournent autour de Karim Benzema, dont le documentaire.
Mais après il y a beaucoup de journalistes qui posent la question actuellement, qui soulèvent le débat, sans avoir d'ailleurs Karim Benzema dans l'équipe.
Oui, c'était la une.
C'est
l'équipe.
Un dossier qu'ils ont sorti, mais ils ont fait la même chose juste après le dernier match de l'équipe de France. Ouais, ils ont interrogé, je crois, 6 ou 8 grands noms du foot français sur est-ce qu'il faut qu'il revienne sportivement, est-ce qu'il doit être là, quel est le problème.
Oui, puis il aurait pu se passer plein de choses, on l'oublie, mais Benzema aurait pu être transféré, aurait pu être blessé, pu être rappelé en équipe de France. La France aurait pu ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde, donc là, on va dire c'est plutôt malin de la part de Canal, mais nous, on aurait fait le film quoi qu'il arrive.
Ah ben, je remets pas du tout en question le fait que vous ayez le film sans avoir d'arrière-pensée par rapport à son agenda à lui. Je dis juste que lui, il doit avoir un agenda sur le sujet et que le film est intégré à son agenda.
Et puis, c'est Canal aussi qui décide de quand il...
Et c'est Canal, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, dans le docu, Benzema qui dit clairement qu'il veut lui revenir en équipe de France, qu'il lâchera jamais l'affaire, il a pas du tout tiré un trait sur l'équipe des France. D'après vous, est-ce qu'il a une chance de revenir un jour?
Je sais pas du tout. Enfin,
c'est dur.
On n'est pas sélectionneur, c'est pas notre boulot.
Ouais. Bon, la team en tout cas, Guérin, oui ou non?
Non.
Greg?
Non, tant que Deschamps sera à la tête de l'équipe de France.
Ouais, donc non, parce qu'il y a signé
jusqu'en 2020, et en priori, c'est plié.
Ouais, bah non, tant que Deschamps est là, non.
Bon, très bien. En tout cas, voilà, c'est le sondage du jour sur le compte Twitter de Move, hein. Lise?
Bah oui, selon vous, Karim Benzema reviendra-t-il un jour en équipe de France, oui ou non?
Là, la tendance?
Bah, plutôt non, hein.
Plutôt non, on est tous un peu d'accord. Votez, ça se passe sur le compte Twitter de Move, les résultats. Avant 13h30, le cas Benzema, c'est sur Canal+, dimanche soir à 21h, juste après Canal Football Club, avec Karim Benzema, qui sera en plateau avec toute l'équipe d'Hervé Matou. Vous restez avec nous, les gars. On va reparler de foot dans quelques minutes. This is Zumbaktu International. T'as quoi cette semaine, Guérin?
Des sorcières américaines qui ont jeté un sort à Donald Trump et ça a marché parce qu'en ce moment, on est en Asie, on dirait un président. On dirait il a déclaré la guerre à personne, il est poli, c'est chiant. Donc je vais pas en parler. En revanche, on va voir du Kevin Spacey et des oursons roumains.
Ce sera dans la Zumbaktu dans quelques instants. Mais d'abord, Greg a une info pour nous. 13-19 sur Move.
13h, 13h30.
Move 13 Actu.
Move. Alex Nassar.
Le sachiez-tu de Greg? Ne soyez pas surpris, Damien et Florence. C'est pas le moment le plus passionnant de l'émission, hein, mais c'est normal. Tous les jours, Greg nous sort sort une info totalement inutile. Un truc dont on se fout totalement, sauf Liz, qui est archi fan.
Ouais, je suis très fan.
On t'écoute, Greg.
Eh bien, sachez que l'ascenseur le plus rapide du monde se situe dans la Shanghai Tower.
Bah, on vous avait dit. Hein.
Ouais. Ouais. Bah, ça, Shanghai, du coup. Et les ascenseurs vont à 73,8 km/h. C'est quand même pas mal.
Ah, c'est pas mal.
Celui de la Tour Eiffel. Tu sais pas,
je m'en fous.
Oui, déjà de base, 7 km/h.
Ah, oui.
Et la tour Montparnasse, 18 km/h, tu vois.
Guérin, un truc à ajouter?
Oui, on pourra voir d'ailleurs le documentaire Le Cascenseur.
Merci Greg. On te retrouve dans quelques minutes pour le trash talk du jour consacré à Marouane Fellaini.
Ouais, le joueur belge de Manchester United qui attaque en justice New Balance, son ancien sponsor. Il leur réclame plus de 2 millions d'euros. Alors pourquoi? Eh bah parce qu'il considère que c'est à cause des crampons New Balance qu'il a porté pendant des années qu'il est tout le temps blessé.
Incroyable histoire, ce sera dans le trash talk dans quelques instants.
13h, 13h30.
Move très actu. Move. Alex Nassar.
13h20 sur Move, c'est l'heure de la Zumbactu de Guérin. Et comme tous les vendredis, Guérin, petit tour du monde de l'actu internationale dans ta Zumba mobile. Hein.
Oui,
c'est la Zumbactu internationale, bien sûr.
Bonjour.
Bonjour.
C'est le 10 novembre 2017 et c'est la journée mondiale des stagiaires. Mais aussi la journée mondiale de la science au service de la paix et la journée mondiale de la qualité. Je peux pas vous dire plus. Ces deux journées sûrement proposées par des stagiaires sous-payés. C'est aussi la Saint-Léon. Donc bonne fête au menu moule frites à volonté. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là.
Ouais, c'est mieux. Allez, on commence avec une alerte Netflix.
Oui, attention, une nouvelle arnaque sévit sur Netflix. Il s'agirait d'un mail en anglais qui ressemble à s'y méprendre un vrai et qui a pour but de vous voler vos données bancaires. Les abonnés de Netflix ne céderont pas à la panique. Ils ont l'habitude des arnaques. Hein, Stranger Things. Je rappelle que Marseille va avoir une saison 2. Ça veut dire qu'en entendant ça...
Je trouvais pas ça bizarre. Quand se touche le zoom, on parle de Picasso.
Et ils ont dit banco, allez, deuxième saison.
Ça faisait longtemps.
Allez, on continue, ça faisait longtemps. Ouais. On continue à Malte avec une nouvelle révélation sur les Paradise Papers.
Paradise Papers, les droits d'auteur du Boléro de Ravel ont été déclarés à Malte pour échapper au fisc.
Ah ouais.
C'est quand même assez ironique qu'on stigmatise les gens qui vivent des allocs alors que même la musique d'attente de la CAF a fraudé le fisc, c'est quand même un peu un scandale.
Hey, culture maintenant, Kevin Spacey qui lui disparaît d'un film.
Oui, suite aux accusations de harcèlement sexuel, Kevin Spacey a été coupé au montage du dernier film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde. Toutes les scènes vont être retournées malgré tous les efforts. Jean-Vincent Placé n'a pas réussi à convaincre le réalisateur. C'est finalement Christopher Plummer qui a décroché.
Encore raté. Et suite au scandale Weinstein, ça bouge à Hollywood.
Ouais, encore hier, le célèbre comique Louis C.K. a été accusé. On annonce la création d'une cellule spéciale crime sexuel à Hollywood. Ça donne envie d'en faire une série. Les experts sans pur port, dirigés par Horacio Justin Bridau, Monique Rano, le capitaine Fleury Michon. Je suis dispo si des producteurs sont intéressés. J'ai déjà un générique.
Ouais, pas mal.
Ça peut schéma, marcher, je
pense. Schéma. Allez, on part en Suisse, où un débat sur les armes à feu fait rage.
Oui, la Suisse est le troisième pays au monde avec le plus d'armes. Pourtant, il n'y a pas de tuerie de masse. Après, je suis pas inquiet. En Suisse, il n'y a que des étrangers qui fraudent le fisc. Des braqueurs viennent, mais pour planquer leur pognon,
pas pour leur
voler. Et tout le monde est blindé de thunes. On a du mal à imaginer une scène de loupard helvète. Genre, donne-moi ta BM ou je te flingue. Bah, t'en as déjà une, Léopold. Ah oui, pardon. Pardon, passe à la maison. Fais une raclette. Non, ça n'existe pas.
Léopold, on part maintenant. Non, en Roumanie.
Oui, dans la ville de Bousteni en Roumanie, un groupe de 7 ours a été repéré en vadrouille au centre-ville, sûrement à la recherche de nourriture ou d'une boîte qui organisait une soirée mours ou de boucles d'or. En même temps, je les comprends, déjà que c'est chaud de rentrer en boîte quand t'es noir, alors quand t'es un ours du chaud. Si vous êtes un ours en galère, évidemment réagissez sur les réseaux avec le hashtag #MeTours. Allez hop, ça c'est fait.
#MeTours. Ok, il y a quoi à faire ce week-end à part les commémorations du 11 novembre?
Ah, j'ai un spécial lyonnais, hein, puisqu'on parle de Karim Benzema. Il y a le salon Reptilion. Oula. Un subtil jeu de mots entre le mot reptile et la ville de Lyon. C'est un salon de reptiles, hein, serpents, iguanes, caméléons. On programme dégustation d'insectes comme des vers de farine aux épices ou encore l'observation fascinante d'une fourmilière en pleine action. Vous ne pourrez pas voir Florian Philippot car les reptiliens ne sont pas invités.
Évidemment, merci beaucoup Guérin. On te retrouve pour les Gossip Pop juste avant 13h30. On prendra des nouvelles de Kanye West. Ça faisait longtemps, 13h24.
Move. Jusqu'à 13h30.
Move très actu.
Alex Nassar.
L'Inside de Move 13 Actu, tous les jours un reportage en immersion. Salut Sonia.
Salut, salut à tous.
Aujourd'hui, on n'est pas surpris, tu nous emmènes dans un bar.
Comment ça, on n'est pas surpris?
Bah non, on n'est pas surpris.
Je le sais. Précise, j'ai passé on ma sait. Soirée au jus pomme ananas.
Oui.
Je le jure.
Oui, oui.
C'est vrai.
Pas pourquoi t'as besoin de le préciser.
Comme ça, pour les mauvaises langues, au cas où. Hein. Bref, ce bar, il est dans le 18e arrondissement de Paris, rue des Poissonniers. J'y étais hier soir et c'est par Daniel que j'ai été accueillie.
Bienvenue au bar commun, c'est donc un bar associatif. Un bar associatif, c'est un bar qui a but non lucratif, donc qui ne dégage pas de bénéfices pour des actionnaires et qui est en l'occurrence entièrement géré par des bénévoles. Ce sont ceux qui l'ont construit, qui vont l'animer au fur et à mesure du temps sur l'ensemble des activités et qui sont derrière le bar au quotidien, qui construisent aussi et animent l'ensemble des activités qu'il y a dans le bar à différentes heures de la journée et à différents moments de la semaine. De bénévoles, on est une centaine. On est une quarantaine un peu réguliers et si on était 20 de plus, ce serait plus facile.
Alors parmi les bénévoles qui étaient présents hier, il y avait Claire. C'était la deuxième fois qu'elle servait au bar.
J'habite dans le quartier, donc juste à côté. Et en passant devant le local, en se baladant, c'était en travaux. Donc on est venu avec des amis aussi par curiosité, voir un peu ce qu'on pouvait y faire. Et forcément quand on vient, on a envie de passer aussi derrière le comptoir et de donner un coup de main et de faire vivre le quartier. Il y a forcément des échanges en fait. L'atmosphère est vraiment pas la même qu'ailleurs. C'est chouette que ça existe.
Donc il y a une centaine de bénévoles déjà, comme Claire, c'est assez impressionnant. Mais t'es pas obligé non plus de servir quand tu viens.
Non, bien sûr, hein, tu peux aussi venir juste pour passer un bon moment et boire un coup, ou deux, ou trois. Mais comme c'est un bar associatif, hein, pour consommer, faut adhérer. Alors attention, c'est un petit peu cher, hein, c'est 2 euros par an.
Ah oui, d'accord, je suis pas sûr de Karim Benzema, il peut pas. Alors, lui, c'est pas possible, il y a pas les moyens.
Et une fois que t'as payé ton adhésion, hein, le café c'est 1 euro et le verre de vin, bah, c'est à partir de 2 euros.
D'accord, alors le vin, comme tous les alcools, bien sûr, à consommer avec modération.
Bien entendu, alors le bar a ouvert mi-octobre, c'est tout récent, et il y a déjà plus de 2000 adhérents. Parmi eux, Julien, il était au comptoir hier soir.
J'habite juste à côté, j'ai vu le bar se monter. Je les ai vus faire des travaux comme des tarés tous les jours, le soir, la nuit parfois, etc. Et j'étais pas trop dispo pour les aider. Je suis venu un dimanche, comme ça, comme j'ai pu. C'est vrai qu'ils sont beaucoup donnés pour monter ce lieu et en faire ce qu'il est en train de devenir. Et du coup, ça fait plaisir d'être là. Et je sais pas encore comment j'y participerai, mais à un moment donné, ça me donne envie de participer. Puis c'est propice pour rencontrer des gens. Voilà,
ah oui, il est venu pécho lui, on va être clair. Donc si j'ai bien compris, on vient pas juste pour y boire un coup. Dans ce bar, il y a plein de choses qui s'y passent.
Tu as très bien compris Alex, écoute Daniel.
Chaque semaine, l'idée c'est qu'il y ait des moments où on organise des ateliers pour les enfants, des goûters, des aides aux devoirs, qu'on organise aussi des débats sur des sujets de société, des sujets politiques, économiques, sociaux, environnementaux qui nous importent à tous. Et pour que chacun puisse prendre la parole au fond dans la vie d'un quartier, aussi bien ceux qui tiennent le bar que ceux qui le font vivre parce que ça devient leur lieu d'habitude dans la vie en fait.
Il y a même un festival hip-hop qui est prévu la semaine du 6 décembre avec donc des artistes du quartier. D'accord. Du 18e. Encore une fois, l'idée c'est vraiment que tout le monde s'approprie le lieu.
Il y a un double défi et un double désir, c'est qu'à la fois ce soit le lieu de tous, mais aussi qu'en se l'appropriant, il fasse un peu de tout, qu'il n'y ait pas d'un côté ceux qui servent, de l'autre ceux qui réfléchissent, de l'autre ceux qui font de la musique, etc. Parce que ça, ce serait une forme de mixité, mais qui ne serait pas satisfaisante. On veut aller plus loin que ça et faire que chacun apprenne de l'autre là-dedans et que la mixité, elle soit dans l'ensemble des activités.
Très joli projet.
Ouais, alors donc si vous habitez en région parisienne, que vous avez envie de passer derrière le bar, de filer un coup de main, de proposer des activités, pourquoi pas, hein, ou juste, ben, on l'a compris, hein, juste de prendre un café ou un verre dans un lieu ouvert, dans un lieu très cool, le bar commun, c'est rue Poissonnier dans le 18e.
Toutes les infos sur le bar commun à retrouver sur move.fr et si vous voulez voir à quoi ressemble ce lieu, ça tombe très bien, Sonia, t'as tourné une vidéo hier soir, où on voit extrêmement bien que tu bois autre chose que du jus de pomme. Ne mens pas, Sonia. Ton haleine dit la vérité.
Tu mens.
Non, je déconne. Elle a vraiment carburé au jus de fruits toute la soirée. Merci, Sonia. Un des meilleurs sons de Kanye West, hein. Stronger, bien sûr. Comment il va, Kanye West, Guéran?
Mieux, bien mieux. Ah. Il refait un peu de musique. Enfin, un peu comme toi, tu fais du crossfit, quoi, en douceur. Ouais, il a fait une pompe la semaine dernière, alors pas encore, le Nassar. En léger. Bon, il a fait. Il va mieux, bon. Kanye. Il a même des projets.
Très bien, ce sera dans les Gossip Pop juste après le Trash Talk 13-28.
13h, 13h30.
Move 13 Actu.
Le trash talk de Greg, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport aujourd'hui. Greg, le joueur belge de Manchester United, Marouane Fellaini, signe une grande première.
Et oui, pour la première fois dans l'histoire du foot, un joueur attaque en justice un équipementier. Marouane Fellaini, 29 ans, réclame 2,3 millions d'euros à la marque New Balance.
Alors, c'est quoi le souci? Elles sont dégueulasses, les New Balance, ou...
Ça pourrait, mais je non. Sais pas. Alors, j'en sais pas, j'en porte pas, mais ce qui est sûr, c'est que Fellaini, c'est un peu le Gourcuff belge. Il est très souvent blessé, et selon lui, c'est dû à ses chaussures de foot, ses crampons, qui sont de mauvaise qualité, je cite.
Okay.
donc ça part en procès. Il reproche à New Balance, son sponsor de 2012 à 2016, d'être responsable de toutes ces blessures qui ont eu, je cite encore, un impact sur son rendement.
Et c'est gonflé quand même, hein. C'est, je trouve ça hyper gonflé. Ça semble difficile à prouver en plus, non?
Bah très, parce que si ça se trouve, c'est juste lui qui est fragile. Mais dans ce cas précis, bah, il peut pas faire un procès à ses parents ou à ses propres gènes.
Non, non, c'est
ça
vrai.
N'existe pas, on n'a pas le droit. Donc il attaque ce qui peut attaquer, quoi.
D'accord, New Balance a réagi, j'imagine.
Oui, la marque se dit offusquée. Ils assurent que jamais durant la durée de son contrat, Fellaini ne s'est plaint de ses crampons, qu'il les trouvait même parfaits. New Balance a fourni des documents qui prouvent que Fellaini commandait souvent de nouveaux crampons et qu'il en était très satisfait. Petit détail aussi, Fellaini avait des crampons gratos, mais New Balance lui donnait aussi 680 000 euros par saison pour les porter.
680 000 euros ?
Ouais.
Mais moi, à Starry, je porte tout ce que tu veux, même en 36, je me coupe les orteils. Ça va rentrer, c'est pas un souci. Ça a des chances d'aboutir cette histoire ou
alors,
pas ?
Aucune idée, puisque c'est une grande première dans l'histoire du foot, mais si Fellaini gagne, ça peut donner des idées à certains pour arrondir les fins de mois difficiles. C'est vrai que les footballeurs en ont besoin.
Oui, bien sûr.
C'est difficile. Hein.
Johan Gourcuff est chez Adidas et Javier Pastore chez Nike.
Oh, t'es dur. C'est vrai qu'ils sont souvent blessés, les pauvres. Mais si New Balance faisait des chaussures pourries, ça saurait dans le milieu, non ?
Alors, j'ai regardé un peu, la marque s'est lancée dans le foot assez récemment. Elle équipe les clubs de Lille, Porto, le FC Séville, le Celtic Glasgow, Liverpool, l'équipe nationale d'Irlande. Leur star, c'est Jesús Navas, le joueur espagnol de Séville. Bref, il y a quand même un peu de monde quand même qui joue en New Balance et personne n'a l'air de se plaindre.
Alors, vu le début de saison de Lille, ça peut être une des raisons pour lesquelles ça marche pas fort. Oui, Guérin.
Ouais, et puis bon, on veut dire les performances incroyables de l'équipe d'Irlande, on n'en fait pas des
Alors évidemment, Fellaini n'est plus sous contrat avec New Balance, il est chez qui maintenant ?
Eh bien, il est chez Nike et on espère qu'il a enfin trouvé chaussure à son pied.
C'est
con, c'était bien. Hein.
Ouais.
Franchement, il était bien jusque-là. Il était tout flingué. Sale semaine en
c'est
tout
comme
cas.
Comme le France-Gall, je sais pour pas. Il y a un moment, je craque.
C'est la fin de semaine. Sale semaine pour les équipementiers. Il y a eu l'histoire Adidas avec le maillot espagnol en début de semaine. Il y a eu l'histoire Nike et les maillots NBA qui se déchirent. Et maintenant, ouais. New Balance et ses crampons pourris. Damien et Florent, un docu sur Fellaini, ça vous intéresse ? Vous battez pas les gars.
Pas
Joker. Et un docu sur le business des marques dans le foot.
Ah, c'est intéressant.
À Nike, Adidas.
Ça serait plus une enquête.
Ce serait plus une enquête. Plus une enquête.
Ça a dû être fait déjà, je pense.
Oui, Élise Lucet.
Carrément.
Quel sportif vous rêveriez de traiter dans un docu que vous n'avez pas fait, bien sûr. Si on a un.
En dehors des sportifs, c'est surtout des personnages, quoi, qui sont intéressants. C'est pour ça que Benzema est intéressant, non?
Oui. Oui, non, mais ouais, Zidane quand même.
Bah un truc sur Zidane, ouais, quand même.
Mais Zidane, c'est un peu Dieu, quoi.
C'est la rencontre qui vous a le plus marqué pendant le documentaire, de foot. Je crois. C'est ça, hein, c'est la rencontre qui vous a le plus marqué pendant le documentaire, Zidane.
En fait, ce qui m'a surpris, c'est que, bon, déjà, c'est Zinedine Zidane.
Ouais.
Voilà. C'est pas rien. C'est pas n'importe
voilà.
qui.
Et donc, il existe vraiment.
ensuite, je savais pas trop la durée de l'interview. On a fait 20 minutes, il a souri tout le temps.
Il est sympa en vrai, ça veut dire.
Bah ouais.
Alors que Thierry Henry, il fait la gueule, quoi.
C'était hyper intéressant. C'était très intéressant. Au-delà de la relation qu'ils ont, il a des mots très forts sur Karim Benzema. Et il a une analyse du personnage qui est éclairante, ouais.
Ouais, il était pas obligé de donner autant.
Mmh. Non, mais il dit carrément, c'est mon petit frère, quoi.
Mmh. Ouais, c'est super
Benzema
fort.
Benzema d'un côté dit, c'est que mon grand frère, et Zidane qui est super fort. Lui, c'est comme mon petit frère. Bon. Merci en tout cas, Greg, pour ce trash talk.
Je t'en prie.
L'artiste, ça arrive sur Move avec Kachou Kachou. Ce sera dans moins de 3 minutes. Restez connectés sur Move.
13h, 13h30.
Move très actu.
Move.
Alex Nassar.
Les gossip hop de Move très actu. Les infos hip-hop du jour servies avec du fromage à raclette et des patates parce que c'est le début de la saison. T'as des news de Kanye West, Guéran.
Oui, après un long moment dans l'ombre, Kanye West réapparaît par petites touches sous les spotlights. La semaine dernière, il est remonté sur scène avec Kid Cudi à Chicago.
Ouais.
On l'a entendu sur un morceau de Sia et de Prince. Et là, selon des documents officiels, il serait sur un gros projet de type connecté. Ouais. Via l'outil internet.
Ah. C'est-à-dire qu'il fait une start-up, il investit dans un réseau social, je sais
non,
pas.
Non, c'est beaucoup plus baroque. Kanye, ou au moins ses représentants, ont déposé le nom Yeezy Sounds.
Yeezy Sounds.
Voilà, pas de déclaration officielle, mais Yeezy Sounds pourrait être deux choses. Un, des chaussures moches connectées qui autotunent tes pieds quand tu fais du footing.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est vraiment pas sûr.
Non, on va passer direct à la deuxième option.
Oui, alors si on en croit des rumeurs, Yeezy Sounds pourrait être un service de streaming de musique, d'images, de vidéos et d'autres contenus multimédia sur internet. On serait donc sur un projet de Kanye West qui serait proche d'un Skyblog. En gros, c'est pas hyper innovant, surtout Yeezy Sound, ça serait un concurrent direct de Tidal, le service de streaming de Jay-Z, qui lui aussi propose ce même type de contenu, à ce qui paraît, hein, puisque c'est comme Google+, il paraît que ça existe, on n'a pas de preuves tangibles.
Alors t'es en train de dire que ce projet de plateforme de stream ferait partie du beef, du clash avec Jay-Z.
Bah disons que ce serait tendu entre les deux, c'est tendu entre les deux depuis la crise de déshydratation de Kanye West l'an dernier, quand il a insulté les gens, c'était de la déshydratation. Il est déshydraté, et puis ce qu'on sait moins, c'est que Kanye West, qui défendait Tidal tous les jours sur internet au début, il s'est barré de la plateforme parce qu'on lui devait 3 millions de dollars.
Ah, donc Jay-Z ne l'a pas viré de Tidal après le pétage de plomb de Kanye.
Pas c'est du pas tout, Kanye, c'est à peu près le seul mec qui a ramené des abonnés à Tidal. Donc, tu peux pas le virer. En sortant l'album de Life of Pablo, il devait d'ailleurs toucher un bonus pour ça, il l'a pas touché. C'est pour ça qu'il s'est barré. Alors Jay-Z et Kanye devaient se réconcilier, mais si Yeezy Sounds est vraiment une plateforme de musique, ça a compliqué le bordel. Et surtout, ça donnerait lieu à un clash le plus nul du monde avec deux mecs qui sont en compétition avec des trucs qui marchent pas. C'est un Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi vous clashez? On s'en branle. Vous êtes 6 et 7ème, dégagez.
Attends quand même, parce que Yeezy Sound ça existe pas encore et tu dis déjà que ça marche pas.
Bah, à part diffuser en live l'accouchement des sorts Kardashian, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt. Après, je peux me tromper, je vous tiendrai informé.
Oh bah ça, on n'en doute pas une seule seconde. Merci beaucoup, Guérin. Toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Damien et Florent, un doc sur Kanye West quand même. Je sais que c'est pas un sportif, mais.
Bah ça, c'est un super perso.
En parlant de personnages et de personnalités.
Ouais. Bon, il y a de matière.
Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Damien Piscarel et Florian Baudin. Je rappelle que votre documentaire, Le Cas Benzema, produit par Black Dynamite, c'est sur Canal Plus dimanche soir à 21h, juste après le Canal Football Club. Merci à toute la team Move très actuelle avant de laisser le micro à Morgane. Lise, le résultat du sondage du jour sur le compte Twitter de Move.
On vous demandait, selon vous, Karim Benzema reviendra-t-il un jour en équipe de France? C'est non à 76% contre 24% qui y croient.
Morgane, t'es d'accord avec ce sondage?
Reviennent, quoi.
Attention, on n'a pas demandé si les gens voulaient qu'il revienne. Est-ce que d'après vous, il va revenir un jour?
Malheureusement.
Ta réponse est non aussi.
Malheureusement, non.
Est-ce qu'il s'est passé des choses folles le 10 novembre?
Bah franchement, pas grand chose à part que la retraite est passée de 60 à 62 ans. Un 10 novembre 2010, on s'en fout un petit peu.
Ouais,
on va surtout souhaiter un bon anniversaire à Warren G, les gars.
Ah. Eh ben merci Morgane.
Bah, merci à vous, je vais me pencher sur le cas Benzema dès ce week-end.
Bah ouais.
Dimanche 21h.
Bah voilà. Avec plaisir.
Salut Morgane.